Alors, je voudrais d'abord bien sûr remercier la MSH pour le financement qui nous a été accordé en 2016 et donc qui nous a donné la possibilité en fait de lancer ce projet, mais aussi pour l'opportunité qui m'est donnée de le présenter aujourd'hui. C'est en effet un projet qui est encore en devenir, qu'on envisage de candidater à d'autres financements pour essayer de le réaliser dans sa pleine dimension. Et donc, tous vos retours sont les bienvenus. Et si vous pouvez justement nous aider aussi dans cette contribution pour améliorer encore ce projet. Alors d'abord, les partenaires du projet. Oups, j'arrive pas à faire... Si, voilà. Alors le principal, c'est l'École française de Rome. En fait, ce projet ELITSIT a été monté, j'ai répondu de manière contemporaine, en fait, à deux appels à projets, celui de la MSH, celui de l'École française de Rome. Donc tous les deux ont été acceptés. Donc dans le cadre de l'École française de Rome, en fait, c'est un financement quinquennal. Le projet est inscrit dans le programme quinquennal de l'École française de Rome. Donc de 2017 à 2021, mais le FR n'assure que 50 à 70% du financement, il fallait trouver d'autres partenaires. Donc le financement de la MSH nous a été très utile en fait comme partenaire pour les deux premières rencontres qui ont eu lieu en 2017-2018 et puis aussi comme autre partenaire par la suite des universités notamment italiennes, l'Université catholique de Milan, de Catane, l'Université de Madrid aussi, l'Université de Nice, française, qui contribueront aussi à l'organisation des futures rencontres en 2019-2020. Et aussi, depuis peu, l'IUF. Alors, la Casa de Velázquez, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on nous avait dit oui. C'était dans le contexte des partenariats entre écoles françaises de Rome à l'étranger, entre écoles françaises, pardon, à l'étranger. Et concrètement, c'était un peu plus difficile à mettre en œuvre. Les participants au projet donc, sont assez nombreux. On a surtout des Italiens, mais aussi des collègues espagnols. Cette participation, le rôle est en fait inégal. Le degré d'implication des différents participants sera probablement inégal dans le projet. Et c'est encore amené éventuellement à se développer, à accueillir de nouvelles personnes qui pourront ne serait-ce qu'apporter parfois des contributions ponctuelles, notamment pour la constitution de la base de données. Alors, je vais d'abord présenter rapidement les enjeux du projet, puis ensuite l'utilisation des financements de la MSH, et puis enfin quelques perspectives quant à ce projet. Alors, ce projet ELITSIT porte sur la question de la reproduction sociale et de la circulation des élites dans l'Italie moderne et en particulier dans les États qui sont intégrés à la monarchie espagnole. Donc, j'ai mis ici une carte géographique de l'Italie. À la fin des guerres d'Italie, où une nouvelle organisation politique s'établit. Et donc, avec les flèches bleues, on voit les États qui sont intégrés à la monarchie espagnole, qui sont la Sardaigne et la Sicile, donc une intégration déjà ancienne à la couronne aragonaise depuis la fin du XIIIe siècle, le royaume de Naples, le duché de Milan dernier arrivé en 1535, après la mort du dernier duc Sforza. Donc l'idée, c'est de voir la capacité des grandes familles italiennes dans ces États à se maintenir au sommet de la hiérarchie sociale, tant par leur richesse que leur rôle politique et institutionnel, que par leur prestige social, tout au long de la période moderne, du XVIe au XVIIIe siècle, en dépit des importants bouleversements politiques que connaît la péninsule italienne, et sur lequel je vais revenir un petit peu. Donc l'hypothèse qui avait été posée, c'est que la capacité de ces familles à tisser des liens avec les principales cours européennes, les monarchies européennes, et à reconfigurer ceci en fonction de la configuration politique, de la conjoncture politique, pardon, contribuait à expliquer leur continuité au sommet de l'échelle sociale. Alors, dans ces différents états de l'Italie espagnole, les configurations institutionnelles et politiques sont extrêmement diversifiées. De la part de la monarchie espagnole, il n'y a pas du tout eu la volonté d'uniformiser, mais on a eu une sorte de pacte avec les élites locales auxquelles une large autonomie est laissée, et le maintien des institutions telles qu'elles existaient, en échange de la reconnaissance de la souveraineté espagnole, et l'Espagne se fait représenter sur place par des vice-rois ou gouverneurs. On a dans ces différents États, donc je disais configuration institutionnelle variée, mais aussi configuration sociale, liée notamment à l'importance des fiefs dans l'Italie du Sud. En Sicile, l'élite sociale de la Sicile, c'est une élite féodale qui détient des fiefs, c'est l'élite qui est représentée au Parlement de Sicile, une institution qui a un rôle important puisque c'est elle qui vote l'impôt, qui décide de sa répartition, qui entérine les lois. Alors que par exemple dans le duché de Milan plus au nord, l'élite sociale c'est plutôt des patriciats urbains, donc des familles aux origines davantage marchandes, qui sont aussi davantage liées au monde juridique, qui ont fait des études de droit et qui sont présentes aussi dans les principales institutions de l'État, institutions municipales ou royales. Ces États de l'Italie espagnole connaissent des bouleversements importants tout au long de la période moderne, avec d'abord différents épisodes de révolte contre la souveraineté espagnole. C'est le cas par exemple en Sicile en 1516, au moment de l'avènement de Charles Quint. C'est le cas à Naples en 1647-48, pour des raisons fiscales. C'est le cas ensuite à Messine, entre 1674 et 1678. Et dans le cadre de ces révoltes, les révoltés, donc certains sont les membres de nos élites italiennes, n'hésitent pas à faire appel au roi de France, qui apparaît comme l'ennemi héréditaire du roi d'Espagne. Tout le monde connaît, je pense, la lutte entre les Valois et les Habsbourg, les Valois puis Bourbons. Autre problème important qui se pose, celui de la succession espagnole à partir de 1700. Donc le dernier souverain espagnol, Charles II, meurt sans héritier en 1700. Et à partir de ce moment, on a la formation de deux partis qui revendiquent cet héritage espagnol. Celui des Bourbons, originaires de France, Philippe d'Anjou, le petit-fils de Louis XIV. Et puis celui des Habsbourg d'Autriche, avec l'archiduc Charles. Donc l'idée, c'est de voir comment les élites italiennes se positionnent dans ces contextes politiques, dans ces contextes de crise. Au moment de la succession espagnole, quels candidats vont-elles soutenir? Quelles sont les conséquences du nouvel ordre politique qui est instauré aussi à l'issue de la succession espagnole? Puisque la plupart des États vont passer finalement sous une souveraineté de l'Autriche, de l'Empire, avec dans certains cas des bouleversements politiques assez importants. Je prends le cas de la Sicile, donc jusque 1700, on a Charles II de Habsbourg comme souverain, donc à Madrid, l'Espagne. Puis de 1700 à 1714, donc pendant toute la période de la guerre de succession, on a Philippe V de Bourbon. Ensuite, à l'issue de la guerre de succession, la Sicile, le royaume de Sicile, est donné à Victor Amédée II de Savoie. Et puis finalement, après 1720-34, Charles VI de Habsbourg et finalement 1734 Charles de Bourbon qui débarque à Naples, les armes à la main pour récupérer les deux royaumes donc qui va instaurer cette fois une nouvelle période, une certaine continuité, ce qui va devenir par la suite le royaume des deux Siciles. Donc face à tous ces changements politiques, l'idée est de voir un peu quel est le positionnement de ces élites dans un emboîtement de pouvoir tout au long de la période moderne. Monarchie espagnole, bien sûr, qui est la principale monarchie actrice, en quelque sorte, puisque pendant deux siècles, elle domine très largement ses territoires, en 16e et 17e, la monarchie française, qui est particulièrement présente au moment des guerres d'Italie, au moment des révoltes, au moment de la succession espagnole, la monarchie impériale, qui possède des liens particuliers avec les États du nord de l'Italie, intégrés dans le Saint-Empire, le duc de Milan reçoit l'investiture de l'empereur, qui joue à nouveau un rôle important dans la succession espagnole, et puis la monarchie pontificale, qui au niveau italien joue bien sûr un rôle politique extrêmement important, d'une part par l'héritage médiéval qui donnait au pape un pouvoir important, en particulier sur les États du Sud, et aussi parce que Rome est bien sûr un lieu clé de pouvoir, aspiration des élites italiennes au trône pontifical, au cardinalat, et aussi un lieu de tractation diplomatique, politique extrêmement important. Donc l'idée, c'est de voir les familles, enfin les grandes familles de ces différents États, quel type de relations entretiennent-elles avec ces différentes monarchies européennes, dans quelle mesure peuvent-elles circuler aussi dans l'espace européen, circuler pour exercer des charges ou suite à des alliances matrimoniales, etc. Alors je suis en train de me rendre compte, je suis désolée, j'ai pas noté l'heure de commencement. Je sais pas, t'avais combien de temps, bref, c'est pas...
Un quart d'heure.
Il me reste un quart d'heure, c'est ça? Ok, merci. Alors, la dimension, si je puis dire novatrice, bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire novatrice du projet, mais j'ai l'impression qu'il y a que ça contribue quand même à combler un peu des vides un petit peu dans l'historiographie italienne. C'est d'abord l'inscription dans la longue durée, le fait de prendre ces trois siècles de la période moderne, 16e, 18e, 18e siècle, puisqu'il y a une vraie rupture dans l'historiographie italienne entre ce qui est la période espagnole et ensuite le 18e siècle. On a des systèmes politiques différents et les historiens italiens étudient soit une période, soit l'autre. Et du reste, ça a été une remarque que j'ai eue quand j'ai présenté le projet aux collègues italiens. On me disait « Ah mais non, il faut se limiter, pas aller au-delà de la succession espagnole. » Alors que ce qui me semblait intéressant, c'était justement d'envisager cette longue durée et de dire « Oui, les systèmes politiques changent, mais... » certaines familles restent les mêmes et elles sont toujours aux commandes. Donc essayez de voir comment elles avaient pu rester aux commandes, quelle reconfiguration s'était opérée, comment elles avaient su surmonter aussi parfois des périodes d'exil, des exils volontaires ou subis, et puis interroger aussi le concept de fidélité politique en l'inscrivant dans la longue durée. Également voir est-ce que ces élites italiennes étaient inscrites dans un espace très large, celui de la monarchie espagnole, hein, qui contrôlait quand même une bonne partie de l'Europe. Est-ce qu'il y a eu des formes de repli au XVIIIe siècle hein, sur des espaces plus régionaux? Deuxième élément, une perspective comparative entre les différents États italiens. Là aussi, c'est un des aspects de l'historiographie italienne qui est extrêmement cloisonné, puisque... l'Italie était politiquement éclatée, hein, et donc on est spécialiste soit du royaume de Naples, soit du duché de Milan, soit de la République de Venise, mais il est très rare que l'on ait une vision d'ensemble sur tout ça. Alors cette vision d'ensemble, elle a été tentée, surtout par l'intermédiaire de colloques qui réunissaient des spécialistes des différents États, mais des colloques qui n'avaient pas toujours hein, une vraie ligne directrice pour permettre des comparaisons, et puis... des approches qui restaient surtout qualitatives, très peu de quantitatifs aussi hein, dans l'histoire italienne. Et donc c'est ce qui fait la liaison avec le troisième élément, la méthode. Donc l'idée c'est de croiser une approche prosopographique et également l'analyse de réseau. Donc avec la prosopographie, l'objectif c'est de dépasser l'approche traditionnelle qui procède par monographie individuelle ou familiale et donc d'avoir une approche à l'échelle de groupes sociaux. Ça permet d'avoir aussi donc, des résultats un peu systématiques, qualitatifs, chiffrés qui peuvent permettre la comparaison. Et puis, par l'analyse de moyens, aussi l'un des éléments peut-être qui permettrait de surmonter l'une des critiques souvent adressées à l'histoire sociale quantitative, hein, un problème de la catégorisation des groupes sociaux, et donc ça pourrait être un des éléments qui permettrait de dépasser cela, d'autant que les réseaux sont très importants dans le fonctionnement d'une monarchie polycentrique comme l'est la monarchie espagnole, puisque c'est cette insertion dans des réseaux qui va permettre aux élites d'obtenir des charges institutionnelles, des pensions, des honneurs, donc d'un côté, la relation des élites au souverain, et de l'autre côté, pour le souverain, c'est ce qui va lui permettre aussi de contrôler ses territoires. Il doit entretenir hein, une clientèle, ses élites locales, qui lui permettent hein, de maintenir son pouvoir sur des territoires qui sont éloignés et parfois difficiles à contrôler. Donc la constitution de ces réseaux apparaît étroitement liée à la circulation des personnels administratifs, diplomatiques, militaires ou ecclésiastiques, qui constituent souvent des figures de médiateurs. Et ces réseaux se constituent aussi à travers différents types de liens, qui peuvent être des liens familiaux. Il y a toute une politique d'alliance matrimoniale qui est du reste encouragée par les souverains espagnols entre les grandes familles italiennes, de la noblesse italienne et espagnole. Des liens institutionnels, des liens de sociabilité, et également envisager la dimension un peu genrée du projet, voir le rôle des femmes aussi dans la constitution de ces réseaux. Dernier élément, une perspective interdisciplinaire, intégrer donc les apports de l'anthropologie à travers le rôle de la parenté et de l'alliance, justement dans la construction de ces réseaux, les formes de clientélisme et de patronage, réfléchir aussi à toute cette question du don, du contre-don, à la notion de fidélité aussi au souverain, que représente-t-elle, comment évolue-t-elle, et puis aussi se nourrir éventuellement de ce que pourraient nous apporter des sociologues, la notion de domination sociale pour les élites, les sciences politiques, le rapport donc des élites au pouvoir, les différentes formes d'exercice du pouvoir, etc. Donc cet aspect interdisciplinaire qui est encore à développer. Je passe maintenant à ce qui concerne donc l'utilisation des financements de la MSH. Donc ça nous a permis d'organiser une première rencontre en avril 2017, donc deux jours qui est à Rome, à l'École française de Rome, qui a été l'occasion d'abord de faire un peu une présentation méthodologique du projet, en particulier de la démarche prosopographique et de l'analyse de réseau. Je me suis rendu compte que c'était très utile en fait, d'en reparler dans le cadre de cette première rencontre avec les collègues impliqués dans le projet, parce que ce qui avait été écrit sur le papier, ça ne suffisait pas forcément. Ça a été l'occasion aussi de faire un peu un point, un bilan historiographique sur les élites italiennes, de définir aussi notre corpus d'études, quelles sont ces élites, où s'arrête-t-on? Alors on avait plusieurs possibilités, on pouvait prendre des critères institutionnels, les membres d'institutions, des critères sociaux, par exemple dire la noblesse, les détenteurs de fiefs. Finalement, on a décidé de partir dans une première approche, quitte à faire évoluer les choses par la suite, mais de partir de la notion de service au souverain, aux monarchies, puisque ce qui nous intéressait, c'était la relation de ces élites aux monarchies. Donc, on s'efforce de recenser tous les Italiens qui ont fourni au souverain un service administratif ou institutionnel, alors un service à un certain niveau, un service militaire, donc militaire on ne va pas prendre le soldat de base, mais on va prendre les responsables de régiment, un service diplomatique, un service juridique à travers les membres des tribunaux royaux, ceux qui ont eu des charges à la cour, ceux qui ont fourni des prêts également au souverain, et puis également un service ecclésiastique. On a commencé aussi au cours de cette première rencontre à structurer notre base de données. Donc l'idée, c'était savoir ce qui nous intéressait pour ces différents individus, quelles ressources et attributs on allait retenir. Donc bon, il y a des choses classiques, les dates et lieux de naissance, de résidence, de mort, toute la question des charges exercées, c'était important, charges administratives et institutionnelles, pour retracer les cursus honorum, voir comment ils s'inscrivaient dans l'espace aussi, envisager également les pensions, les décorations, les fiefs, les titres qui ont pu être reçus, qui sont aussi des formes de gratification données par le souverain. Pas toujours, parfois c'est des achats, c'est purement vénal. S'intéresser également aux prises de position politique à un moment donné. Recenser également des formes de relations. C'est un peu dispersé. Les relations, ça peut être dans le cadre des études, la formation qui a été suivie. Beaucoup ont fait leurs études dans certains collèges, dans des collèges jésuites ou après dans des universités de droit. L'appartenance aussi à certaines institutions, à certains cercles de sociabilité plutôt, comme des salons, des académies. Les relations de parenté, bien sûr, pour essayer de recenser un maximum de liens, en sachant, en étant tout à fait conscient, bien sûr, qu'on ne pourra pas avoir tous ces liens sur tout le monde. Bien évidemment. Alors, initialement, j'ai bénéficié de l'aide des collègues de la MSH, donc de Georges Fins et Alain Ravas, que je remercie beaucoup, pour structurer un premier projet de base de données. Ça nous a aidé un peu à mettre en place aussi, à réfléchir un peu à ce qu'on voulait comme information, à structurer aussi ces informations. Et puis, finalement, on a décidé, donc cette structure de base de données n'a pas été mise en œuvre parce qu'on a décidé de rejoindre une base de données qui existait déjà, Fichose, une base de données qui a été créée par Jean-Pierre de Dieu, qui est hébergée sur Humanum et qui est active depuis 1989. Alors, pourquoi ce choix? Parce que, alors, la structuration, la création d'une base de données pour notre projet, on s'interrogeait un petit peu parce qu'il fallait bien sûr pouvoir tester cette base de données. On n'avait pas dans l'immédiat la possibilité d'organiser beaucoup de rencontres pour réussir justement à mettre en œuvre cette base de données. Il y avait la question de la difficulté éventuellement à modifier son architecture par la suite, alors que le projet avançait et qu'on se rendait compte qu'il y avait peut-être d'autres éléments qui pouvaient nous intéresser. Et la base de données Fichose présentait justement une certaine flexibilité dans les modifications à opérer par la suite. On peut rentrer un peu tout ce qu'on veut assez facilement. C'est un outil qui a été donc développé depuis 1989 et extrêmement élaboré, avec aussi des tables généalogiques, ce qui nous intéressait pour les liens familiaux, des tables géographiques qui permettaient, quand on rentre un lieu, d'être tout de suite relié à des coordonnées géographiques et pouvoir donc produire une cartographie. On avait aussi comme autre argument la présence de données qui nous intéressaient. Des données essentiellement sur des Espagnols, puisque la base de données a d'abord été construite pour ça, c'est ce projet PAP que vous voyez ici, sur des administrateurs espagnols, mais aussi déjà des Italiens de notre corpus qui étaient présents. Voilà, et à l'issue donc de cette... Je ne m'attarde pas trop sur les détails de la base de données. À l'issue de cette première rencontre de 2017, on a également constitué des groupes de travail. Donc d'abord des groupes géographiques avec un responsable, enfin un coordinateur par État, duché de Milan, royaume de Naples, royaume de Sicile. Et également des groupes transversaux, mais qui là ne sont pas encore complets, pas encore vraiment opératifs, qui seront peut-être à partir de l'année prochaine, à partir des thématiques, donc les différentes catégories d'élite qui nous intéressaient, catégories, attention, parce que ça se recoupe, quelqu'un qui est présent dans les militaires peut aussi être un diplomate, etc. Donc c'est assez, bien sûr, flexible, mouvant. Donc en fonction des différentes catégories, administrateurs, militaires, services financiers, etc. Donc ça a été cette première rencontre de 2017. Une deuxième rencontre s'est opérée en avril 2018 avec un peu des problèmes financiers qui ne sont pas encore complètement résolus, qui a eu lieu donc du 16 au 20 avril, donc toujours à Rome, à l'École française de Rome, dans la mesure où l'École française de Rome nous offre le logement et ça permettait donc au niveau du budget de faire un peu des économies. Donc cette deuxième rencontre a été structurée un peu autour de trois éléments. D'abord une première journée avec un séminaire thématique sur le rôle de la famille dans la constitution des réseaux, notamment le rôle des alliances matrimoniales et des parrainages. Donc on avait invité des spécialistes d'histoire de la famille qui nous ont aidés un peu à préciser notre approche dans ce domaine, notamment au niveau de la méthodologie, des sources. La deuxième journée, ça a été un travail donc, sur la base de données et en fait les différents groupes qui avaient été formés l'année précédente ont présenté chacun un peu un état des lieux et notamment les sources possibles par lesquelles on allait pouvoir commencer à rentrer les données. Et puis finalement, il y a eu 3 jours de formation à la base de données Fichose qui ont été organisées par Jean-Pierre de Dieu. Là, pour un groupe restreint, on était seulement une douzaine qui vont commencer donc à entrer les données. Là maintenant, ça y est, c'est commencé. On a décidé également, donc ça c'est la répartition des tâches pour rentrer les données, ce qui est en cours actuellement. Et on a créé également un espace de mise en commun des documents sur Humanum pour justement aussi communiquer, voir, suivre l'avancement du travail, déposer hein, des documents qui nous semblaient intéressants de partager. Quelques perspectives pour terminer. Alors, le projet se poursuit bien sûr dans le cadre du financement de l'École française de Rome jusqu'en 2021. On a ici le calendrier des prochaines rencontres qui sont prévues. Le produit de la recherche, parce que on pense déposer en 2021, donc un ouvrage collectif, une base de données accessible en ligne sur ces élites italiennes, un ou plusieurs numéros spéciaux de revues, on va voir, hein, c'est en fonction là, des prochaines rencontres que l'on va faire, je ne sais pas si toutes donneront forcément lieu à des publications. L'un des problèmes qui se pose actuellement pour nous, c'est de circonscrire un peu le projet, parce que toutes ces élites, sur trois siècles, c'est évidemment très large, avec les moyens dont nous disposons. Donc l'idée, c'est de tenter d'obtenir de nouveaux moyens, d'avoir notamment du temps, parce que l'un des principaux problèmes hein, pour les participants au projet, c'est de dégager du temps pour y travailler, pour pouvoir notamment insérer les données dans la base. Donc on va tenter d'autres financements, on envisage des financements européens, mais sinon, si on n'a pas ces financements, l'idée, c'est de circonscrire un petit peu le projet. Donc là, pour le moment, on rentre en fait toutes les sources qui sont facilement accessibles, qui peuvent être des sources publiées, des répertoires, des annuaires, des données, des bases de données personnelles des différents participants. Je pense par exemple à David et ma fille qui avait une base de données extrêmement importante sur tous les militaires au service de la monarchie espagnole. Donc chacun fait confluer les sources dans la base. Et puis après, on envisagera les possibilités hein, de réduction, soit se focaliser sur certaines périodes, notamment une des périodes importantes, ce sera bien sûr la période de transition entre la monarchie espagnole et le XVIIIe siècle, soit se focaliser sur un groupe particulier, ça pourra être le groupe des diplomates, des juristes, des membres des tribunaux royaux, ou encore hein, se focaliser sur quelques familles qu'on suivra hein, sur la longue durée, sur les trois siècles. Donc toutes ces alternatives hein, sont complémentaires les unes des autres. Voilà. Je vous remercie de votre attention.